Ouvrez vos Bibles dans les Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, et au chapitre 2. Donc, dans ce thème, un plan pour moi. D'abord, Dieu a un plan de salut pour moi. Deuxièmement, il a un plan spécifique pour moi. Et troisièmement, il a un plan général pour moi. Donc, premièrement, donc, un plan de salut pour moi. Et dans Actes chapitre 2, bien, vous savez tout de suite, si vous fréquentez les églises évangéliques depuis un certain temps, bien, vous savez que ça, c'est le chapitre où, le jour de Pentecôte, quand Pierre se lève. Et pour la première fois, il ne dit pas de bêtises. Ce n'est pas la première fois, mais bon, jusque-là, il est toujours, il avait ses pensées. Et ses pensées, ce n'étaient pas toujours les pensées de Christ. À tel point qu'un jour, Jésus a dû lui dire « Arrière de moi, Satan, tu n'es pas en train d'exprimer les pensées de Dieu, tu es en train de présenter les pensées, formuler les pensées du diable, qui voulait que, finalement, il évite la croix » et la mort. Mais ici, après tant d'années de marche avec le Seigneur, 3 ans et demi, et Jésus, chaque fois qu'il exprimait les choses et qu'il essayait d'éclaircir les choses, et combien de fois il leur a dit, au moment de la croix, ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas compris. Après la résurrection, ils sont encore là, encore avec leurs idées. Et même au moment de l'ascension, Pierre et les autres disciples disent est-ce qu'il leur a parlé du Saint-Esprit qui allait venir sur eux? Il a dit, c'est à ce moment-là que tu vas rétablir ton royaume. Donc 10 jours avant Pentecôte, 10 jours avant le chapitre 2, c'est encore, il est encore dans ses idées, ses pensées, que Jésus va être roi, et puis nous serons les ministres, et puis tout ira bien. Mais là, parce que le Saint-Esprit est descendu sur eux, il a pris possession de cet homme et rempli du Saint-Esprit, eh bien, regardez ce qu'il dit au verset 22. Donc, Actes chapitre 2, verset 22, et je vais lire jusqu'au verset 24. Il dit, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Mais dit, vous avez cru réaliser votre plan. Vous aviez, depuis un certain temps, vous cherchiez à faire mourir cet homme. Et vous croyez avoir réussi. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. C'est qu'en fait, c'est le plan de Dieu qui s'est réalisé. Le dessein de Dieu. Et selon sa préscience, je vais revenir sur cette notion de préscience, mais juste rapidement, la préscience, ça veut dire que c'est cette capacité que Dieu a de savoir ce qui va se passer avant que cela se passe. Et parce qu'il a cette préscience, eh bien, il peut faire des projets, et des projets sûrs. Nous, on peut essayer d'avoir des projets, mais on ne contrôle pas toutes les circonstances, ni tous les éléments qui rentrent là-dedans, alors on espère pour le mieux, mais Dieu qui a cette préscience et qui sait comment les hommes vont se comporter, eh bien, peut se servir du comportement des hommes pour réaliser son plan. Et il dit, vous vouliez faire, mais en fait, c'est le dessein de Dieu. Et là, cet homme a été livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu. Et là, bien sûr, le plan de Dieu s'est réalisé de manière parfaite. Et Jésus a pu dire sur la croix, tout est accompli, tout ce qui était prévu est accompli. Et même c'était à l'heure, hein, c'était pas en retard, comme arrive souvent chez les hommes. Et Pierre, pour la première fois, eh bien, comprend que c'était le plan de Dieu. Lui, imaginez, royaume, pouvoir, un Jésus puissant qui imposait sa volonté, qui se délivrait de l'Empire romain et puis de l'influence de la culture grecque, et puis il pouvait vraiment vivre un judaïsme selon la loi mosaïque. Quelques jours plus tard, après que Pierre et Jean auront été arrêtés, puis relâchés, menacés, il va revenir parmi les chrétiens de cette église de Jérusalem. Et donc au chapitre 4 et au verset 27 et 28, là dans sa prière, encore une fois, il formule cette pensée. Actes chapitre 4 et verset 27 et 28, il dit « En effet, il est en train de prier, hein. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. » Jusque-là, ils ne s'étaient pas entendus. Pilate et Hérode, c'était, excusez-moi pour ceux qui aiment les animaux, mais c'était ses chiens et chats. Hein. Mais là, il dit, mais ennemis communs, donc unis. Hein. Ton ennemi, c'est mon ennemi, donc nous sommes amis. Ça arrive parfois. Il dit « Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Mais il dit « Mais ces deux hommes qui étaient dans leur cœur, aucun désir de vouloir te servir, au contraire. Eh bien, finalement, ils ont accompli parfaitement ce que tu avais décidé, ce que ton conseil avait arrêté d'avance. Finalement, la mort de Christ, ce n'était pas un accident, c'était la réalisation d'un projet. C'était l'accomplissement d'une promesse. C'était l'expression la plus parfaite de l'amour de Dieu. Il dit, Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il avait un plan, il l'a réalisé. Il n'a pas attendu que nous on soit d'accord. Il n'a pas attendu que nous approuvions. Il n'a pas attendu que nous commencions à plaider, à crier. Non, il l'a fait de lui-même, de sa propre initiative, avant même que les hommes comprennent ce qu'il faisait. Il l'a fait, il a tout fait. Et puis ensuite, il a dit, tout est fait, venez, recevez. Pierre avait enfin compris que le plan de salut de Dieu est bien exigé la mort de Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces deux hommes sur le chemin qui mène à Emmaüs, hein, dans l'évangile de Luc, et au chapitre 24, Luc chapitre 24, il y avait ces deux disciples qui rentraient le dimanche soir, qui rentraient chez eux, à Emmaüs, donc un petit village, une douzaine de kilomètres de Jérusalem, et ils ont là, ils ont une triste mine. C'est pas seulement que Jésus est mort, mais en plus, tout le plan, tout le projet, tout ce qui est, ce dont leur rêve s'est écroulé. Bon, le rêve était bâti sur du faux, alors c'est pour ça, c'est pas étonnant. Mais bon, les sentiments étaient quand même là, hein, c'est du vrai. Hein, même si le rêve, c'est du rêve. Quand on y croit et que ça n'arrive pas, c'est pareil. Hein, le sentiment et l'état dans lequel on se trouve, c'est la même chose. Et alors, Jésus s'approche d'eux Et puis il commence à parler avec eux, et il dit, mais vous avez une drôle de tête là, qu'est-ce qui vous arrive? Mais tu sors d'où toi? Tu sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem? Il dit, comment, à quoi? Bien sûr qu'il savait, il était la victime lui-même. Mais Jésus parfois il pose des questions, c'est pour nous aider à mieux parler. Hein. Et alors il dit, mais tu n'as pas entendu comme quoi celui que nous aimions, on croyait que vraiment il allait faire quelque chose, et puis finalement ça s'est mal passé. Mais regardez au verset 25. Verset 25, il dit, alors Jésus dit, quand Jésus parle, tout change. Il leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. Je me demande si nous, on n'est pas inclus dans ce ô homme. Dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et certainement qu'ils l'ont regardé, me dit, mais tu sors ça d'où? Nous, on n'a jamais vu ça. Et alors, Jésus dit, bah, voilà. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, ce qui concerne le concernait. Et tout d'un coup, il ouvre et il commence à expliquer. Il dit, vous pensez à ce verset-là, vous pensez à ce passage, vous savez, vous vous souvenez ce qui a été dit là? Ben oui, on connaît tout ça. Eh ben, ça veut dire quoi tout ça? Ben, ça veut dire que Jésus devait mourir. Et ils sont là. Mais pour la première fois, ça commence à pénétrer, vous savez, c'est une petite lampe, lumière commence à s'éclairer dans leur tête. Et puis, bon, bien sûr, vous connaissez la suite. Après, il rentre dans la maison et il bénit le pain. Et vous savez comment il bénissait le pain à l'époque chez les Juifs? Il prenait le pain et il l'élevait comme ça. Et il remerciait Dieu. Ben, quand il élevait les mains comme ça, eux, ils ont vu les traces des clous. Il n'y en a pas de 36 qui se promènent comme ça. Et quand il a élevé les mains, eux, ils regardent. Et ils ont dit, ah, mais c'est lui! À ce moment-là, il est parti. Ça suffisait, ils avaient besoin. Tout ce qui... Bon, ils étaient venus, ça leur a peut-être pris 3 heures pour venir, mais ça leur a pris 1 heure pour repartir, parce qu'ils étaient tellement contents. Mais, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, mais Dieu avait un plan. Il n'a fait que réaliser le plan. Il n'y a rien, il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de... C'est le plan de Dieu. Dieu avait un plan pour le salut des hommes. Bon, il ne l'a pas fait comme les hommes pensent qu'on doit le faire. Mais les idées des hommes, ça ne réussit pas. Les hommes, vous savez, les hommes, ils disent, ben, fais des bonnes œuvres, prie beaucoup, jeûne. On a des amis dans notre monde là qui sont en train de jeûner ces temps-ci. On leur impose ça. Et puis, mais est-ce que ça a changé quelque chose? Ils représentent une part importante de la population du monde, mais c'est pas parce que eux jeûnent que tout va mieux, hein. Si vous aviez 25% de la population du monde qui tout d'un coup change de coutume, ça se sentirait. Mais là, ils jeûnent et ça change rien. Ou bien ceux qui sont là avant Pâques et puis qui sont en train de se priver de quelque chose, mais ça change rien. Notre monde, il continue pareil. Et puis vous avez dans d'autres religions, ou bien ils ont d'autres principes, et ils ont des jours de fête, et puis... Mais ça ne change rien. Vous savez, ce que les hommes proposent ne sauve pas. Et même, ils vous proposent, ils vous disent, écoutez, vous allez mourir, vous allez réapparaître dans un autre être, et puis alors vous essayez de faire votre mieux là, et puis après, c'est un cycle, et puis vous mourrez, et puis après, ça ira de mieux en mieux. Et qui est-ce qui me garantit tout cela? Parce que ça prend longtemps, hein, de réincarner plusieurs fois pour arriver à un nirvana. Vous connaissez quelqu'un qui est arrivé? Vous savez, il n'y a pas de garantie. Dieu, et si Jésus-Christ est mort, c'est parce que Dieu savait qu'aucun de ces systèmes ne réussirait. Il y en a d'autres qui ont un principe où c'est une question d'apaiser les esprits, les mauvais esprits. Ils les apaisent, ils font tout pour les apaiser, ils ont des cultes pour eux, tout ça. Ils s'en servent, ils font leur volonté, mais ils ne sont pas plus heureux non plus. Hein. Mais pour ceux qui reconnaissent le plan de Jésus-Christ, le plan de Dieu, le plan du salut de Dieu, où c'est lui qui a tout fait. Et parce que c'est lui qui l'a fait, c'était bien fait. Et c'était même approuvé de Dieu. La preuve, c'est qu'il y a eu un temps où Jésus a dû dire « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais après, avant qu'il ne rende son esprit, le contact a été rétabli parce qu'il y a une prière. Il dit « Père, reçois mon esprit. » Contact est rétabli. Il a porté le péché, Dieu s'est détourné, ça a été réglé. Il dit « Père, reçois mon esprit. » Et ensuite, Jésus dit « Je monte chez mon Père et je vous enverrai l'Esprit Saint. » Et l'Esprit Saint est venu. Donc, on sait qu'il est arrivé, et on sait que tout se passe bien, tout est bien fait, et nous pouvons compter dessus. Un Dieu qui a pu faire le monde que nos yeux voient, et que notre intelligence arrive un peu à cerner, eh bien on dit, mais si dans le matériel il arrive à faire si bien, qu'est-ce que ça doit être dans le spirituel, qui est son domaine en fait. Dans Actes chapitre 10, Pierre, un peu à contre-cœur, il ne comprend pas trop ce qui lui arrive, se trouve pour la première fois chez des païens, chez Corneille. Il n'y croit pas trop, mais il a compris que Dieu voulait qu'il aille parler à ces païens. Mais dans sa tête, ce n'est pas trop évident. Mais il est soumis à Dieu. Et au chapitre 10, verset 43, il est en train de parler de Jésus. Il arrive à ce point, il dit « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Tous les prophètes rendent témoignage. C'est quelque chose qui existait, ce n'est pas seulement Jésus qui a inventé ça. Non, c'était annoncé. Et si c'était annoncé par les prophètes, c'est que Dieu l'avait déjà dans sa tête pour le dire aux prophètes. Actes chapitre 26, Paul se trouve devant le roi Agrippa. Et Actes chapitre 26, versets 22 et 23, il dit « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » Il dit, c'est depuis toujours. Il y avait un plan de salut. En fait, le plan du salut pour les hommes a été mis en place avant que Dieu ne crée l'homme, pour ne pas prendre de risques. Il a créé l'homme, il savait ce que l'homme ferait selon sa préscience, il savait. Donc il a prévu un plan du salut avant la fondation du monde, afin de garantir, quoi que fasse l'homme, le salut serait là. Vous savez, ça c'est... On a un Dieu extraordinaire quand même. Et bien sûr, le passage classique que tout chrétien doit connaître, c'est ce passage de Ésaïe 53, où nous voyons le serviteur souffrant, hein, homme de douleur, habitué à la souffrance, et qui meurt pour porter nos péchés. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu a prévu, ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, il a mis en place, et c'est un plan qui est déjà fonctionnel. Et c'est à nous, eh bien, de dire, ben, il est là, c'est un bon plan, ben, je le prends, je rentre dedans. Et c'est par la foi, comme il a été dit tout à l'heure. Jésus est le sauveur, mais il ne peut sauver que ceux qui croient. Un plan de salut pour moi. Ensuite, on peut voir, Dieu a un plan spécifique pour moi. Et là, nous allons prendre l'exemple de l'apôtre Paul, donc dans Galates chapitre 1, donc l'épître de Paul aux Galates. Et au chapitre 1, ici, Paul avait déjà prêché aux Galates. Hein, c'est ceux qui habitent à Galatie, c'était toute une région dans la Turquie actuelle. Il avait prêché, ils avaient cru, mais derrière lui sont arrivés des gens qui ont dit, mais non, Moïse, il a enseigné comme ça, vous ne pouvez pas seulement croire en Jésus, hein, il faut pratiquer quand même les lois de Moïse. Et ils ont commencé à leur dire, vous savez, c'est le salut, c'est dans le judaïsme. Jésus, c'est bien, mais il faut le reste, hein, il ne faut pas... Et ils étaient venus, et ces Galates, ils s'étaient laissés embobiner. Le chapitre 1, l'apôtre Paul dit au verset 6, il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. » Mais il leur dit, et soulignez cela, hein, parce qu'il y a des trucs qui vont arriver. Hein. Mais il dit, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est-à-dire, si quelqu'un vient vous prêcher quelque chose autre que Jésus-Christ, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, et un message par la foi, si quelqu'un vient avec une modification quelconque, eh bien il dit... repoussez-le. Et il y en a eu depuis, hein, qui se sont appelés prophètes. Il y en a un qui est apparu en Arabie. Il y en a un autre qui est apparu aux États-Unis, hein, Joseph Smith, là, c'est les Mormons. Il y en a d'autres qui sont apparus et qui arrivent avec un autre livre. Il dit, voilà, il dit, quelqu'un vient avec un autre évangile, refusez. Il n'y a qu'un seul évangile et Dieu ne change pas d'avis parce qu'il a fait parfaitement la première fois. Et donc l'apôtre Paul dit, écoutez, vous voulez parler de rentrer dans le judaïsme, écoutez, il dit, moi, je sais ce que c'est, j'étais dedans. Et regardez... en Philippiens chapitre 2, il dit, moi j'étais pharisien, et quant à la loi, fidèle, il dit, je suis même devenu un persécuteur de l'Église, tellement j'étais jaloux pour le judaïsme, je persécutais tous ceux qui ne suivaient pas. Parce que bien sûr, à l'époque, il considérait le christianisme comme une secte du judaïsme, et des gens qui s'étaient détournés. Alors l'apôtre Paul, lui qui était tellement dans le judaïsme, et ici donc nous allons voir au verset 13, donc vous êtes dans Galates chapitre 1 verset 13, dit « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et je ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais le plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Il dit, moi, s'il y avait quelqu'un qui était pris dans le judaïsme, je l'étais plus que vous, plus que n'importe qui était passé. Moi, j'étais en avance sur ma génération. Et ce n'est pas seulement que je le parlais, mais je le pratiquais. C'était un terroriste à l'époque. Et il mettait des gens en prison. Il nous dit même que quand il était sur le chemin de Damas, il était en train de penser meurtre. Et ce n'est pas des accidents, c'était prévu. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, avant d'être Paul, hein, il était Saul, eh bien, c'était le genre de personne qu'aujourd'hui, on amènerait à La Haye pour le faire passer en jugement. Il dit, moi je sais ce que c'était. Et il dit, et je suis sorti de là. Il dit, moi j'étais pour les traditions, l'orthodoxie du judaïsme, le fondamentalisme du judaïsme, le conservateur, j'étais pour préserver les choses telles que Moïse les avait données. Il dit, j'étais là-dedans. Mais il dit, je ne suis plus dedans. Réfléchissez. Pourquoi? Comment est-ce que j'ai pu sortir de là? Il leur dit, dans Acte 22, il dit, j'ai été élevé dans cette ville, Jérusalem. Il dira, j'ai été instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était le grand théologien juif de l'époque. Ça, c'était le professeur des professeurs. Gamaliel, il dit, moi, j'étais assis à ses pieds. J'étais arrivé au niveau où moi, je pouvais recevoir directement de lui. Je ne recevais pas par quelqu'un qui avait reçu. Moi, j'étais à ses pieds. J'étais son disciple. Et il dit, j'avais une connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu. Il dit, j'étais dedans, comme vous ne pouvez pas imaginer. Il a dit, même tellement j'étais dedans, quand il y a eu ce chrétien, Étienne, quand ils l'ont lapidé, eh bien j'ai approuvé sa lapidation. J'étais là, on m'a confié les vêtements pendant que les autres jetaient les pierres, mais j'approuvais cela. Et j'étais là. Bon, je pense que c'était bon pour lui d'être là, parce qu'il a entendu un peu la prière d'Étienne. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça peut-être lui a rappelé ce que Jésus avait prié, qu'il avait entendu parler, que Jésus avait prié de cette manière-là. Il dit, comment il arrive quand même? On est en train de le tuer avec des pierres, et il est en train de dire, pardonne-leur. Et ça a dû le travailler. Bon, ça ne l'a pas changé, hein, ça ne suffit pas de penser des choses, hein, il faut y croire pour être transformé. Et il a dit, j'avais approuvé. Alors comment expliquer qu'un homme tellement là-dedans puisse faire un revirement total et être pour Christ? Eh bien, il dira, oui, bien sûr, il a dit, j'étais en route pour Damas avec des lettres m'autorisant d'aller là-bas, prendre des prisonniers, ces gens de cette voie, et de les ramener. Et je pensais mal, je pensais meurtre, je pensais violence, je pensais... Et dans cet état-là, il dit, Jésus-Christ m'a parlé. Et Jésus-Christ a dit... Vous savez, Jésus-Christ, il aurait pu frapper avec la foudre, hein, ça aurait été facile. Et puis arrêter la persécution. Mais Jésus a préféré parler. Et même il a posé une question. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce que je t'ai fait? Quel mal est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu me persécutes? Il dit, mais tu es qui toi? Il dit, mais je suis Jésus. Tu sais, Jésus là, tu... Jésus, oui, celui que tu persécutes, c'est moi. Ah, mais je croyais que tu étais mort. On m'a dit que tu étais mort. Et que les disciples avaient volé ton corps. Non, je suis là, je suis ressuscité, comme tu as entendu dire. Il dit, alors Seigneur, que veux-tu que je fasse? Hein, c'est un peu ce que nous devons répondre, c'est la première prière de Pierre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Puisque tu es vrai, tu existes, que veux-tu que je fasse? Et... Jésus lui parle pour la première fois. Et en fait, si je continue à lire dans ce passage de Galates, donc verset 15, il dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire connaissance de Céphas, donc Pierre, et je demeurai 15 jours avec lui. Mais je ne vis aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Il a dit, Jésus m'a parlé. Il a dit, et puis alors, j'ai cru. Et il a été baptisé à Damas. Mais il a dit, je ne suis pas descendu à Jérusalem pour dire aux apôtres, écoute, racontez-moi. Non, il a dit, je suis parti dans le désert, j'ai dit, Dieu, je veux comprendre. Et il est allé dans le désert d'Arabie, ça ne veut pas dire la péninsule d'Arabie, c'est le désert qui est au sud de la Palestine, hein, qui s'appelait le désert d'Arabie. Et il a été là, il s'est retiré, et là, il fallait repenser tout ce qu'il avait appris jusque-là. Il connaissait bien l'Ancien Testament, mais les conclusions qu'il avait tirées, c'était tout faux. Il fallait repenser tout ce qu'il savait, le repenser, et voir mettre Jésus là-dedans. Et Jésus lui a parlé plusieurs fois. Hein. Vous souvenez que, par exemple, pour la scène, il dit « ce que j'ai reçu du Seigneur ». Et il a pu décrire exactement comment le Seigneur a servi la scène dans la chambre haute, alors que lui n'avait pas été là. À Corinthe, Jésus est à Corinthe, Paul est à Corinthe, et par une vision, le Seigneur lui parle. Il lui dit, écoute, je sais, tu as l'habitude que les choses se passent plus rapidement. Écoute, reste ici à Corinthe, j'ai un peuple nombreux. Et donc, Paul est resté là. Donc le Seigneur, plusieurs fois, Paul lui a parlé, et il lui a dit une fois aussi, il lui a dit, écoute, t'en fais pas, il y a une tempête, il va y avoir toutes sortes de difficultés, mais t'en fais pas, tu apparaîtras devant César. Et ça, c'était par révélation directe aussi. Donc, Paul avait reçu, il a dit, ce n'est qu'après avoir été convaincu, une fois que j'étais complètement dans ma tête réformée, dans ma compréhension, j'ai été voir Pierre à Jérusalem, et il dit, Pierre a approuvé ce que je lui disais. Ce que j'avais découvert, en fait, c'était ce qu'il savait. Il dit, j'ai parlé avec Jacques, il dit, les apôtres m'ont approuvé, ils m'ont donné la main de bénédiction. Finalement, dans un sens, on sait, pour nous, ça fait deux témoins indépendants que le message de l'Évangile tel qu'il nous est présenté est vrai. Parce qu'il y avait le témoignage des apôtres d'une part, il y avait le témoignage de Paul par ailleurs, et ça s'est confirmé, alors que lui, il avait été formé autrement. Eux, c'était des pêcheurs de poissons, des publicains, des collecteurs d'impôts, un peu de tout, et lui, c'était quelqu'un qui avait fait des hautes études, hein. Monsieur docteur en théologie, eh bien, quand on rencontre Jésus-Christ, eh bien, ça revient à une pensée. Et alors, quand Paul s'est relevé, hein, Saul s'est relevé sur le chemin de Damas, et qu'il s'est rendu à Damas, il était aveugle, il était guidé jusque-là. Et dans Actes chapitre 9, alors Paul arrive à Damas et il jeûne là pendant plusieurs jours. Et le Seigneur s'adresse à Ananias, un certain responsable de l'église à Damas. Il dit, Ananias, écoute, je voudrais que tu ailles là-bas sur le chemin, celle qui est droite, et que tu ailles voir un certain Saul de Tarse. Saul de Tarse, mais Seigneur, tu sais ce que je sais sur lui. Lui, il vient, c'est pour nous mettre en prison, et toi, tu m'envoies dans la gueule du lion. Écoutez ce que le Seigneur répond. Au verset 15, donc acte 9, 15, il dit, mais le Seigneur lui dit, va vers cet homme, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il a dit, lui, il ne savait pas. Mais en fait, moi, j'avais un plan pour sa vie. Et lui, j'avais un plan, c'est de faire de lui l'apôtre des païens. Parce qu'il fallait un défenseur, heureusement pour nous, hein. C'est-à-dire, Dieu a quand même des beaux plans. Il a de bons projets. Il connaît les difficultés, il connaît les problèmes des êtres humains. et il connaît les préjugés, les préjudices et tout. Et Dieu a prévu, il a dit, je choisis un homme. Un homme qui était le mieux formé dans le judaïsme, le plus zélé dans le judaïsme, j'ai pris celui-là pour en faire un apôtre des païens. Allez, comprendre. Il dit, c'est pour montrer mon pouvoir. Et je dis, je l'ai pris pour cela. Maintenant, nous-mêmes, vous pouvez vous regarder, peut-être que si vous êtes dans le Seigneur, vous pouvez regarder quelques années en arrière, vous dites, bah, avant de recevoir Christ, vous dites, moi là, j'étais dans l'état où j'étais, c'est sûr que j'aurais jamais reçu Jésus-Christ. C'est quand même extraordinaire que je sois où je suis aujourd'hui. Parce que qui l'aurait cru un certain temps? Et bien, on pourrait dire la même chose de l'apôtre Paul, et puis on peut le dire de chacun de nous. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour moi. C'est pas parce que je ne suis pas l'apôtre Paul, c'est pas parce que je ne suis pas Jérémie, lui aussi, il est dit de lui que Dieu l'a choisi dès le sein maternel. Mais, en fait, une fois que je suis en Jésus-Christ, j'apprends que Dieu a un plan pour moi depuis longtemps. Il dit, mais moi, je t'ai vu, dans ma préscience, je t'ai vu venir. Et donc, je t'ai prévu. Et j'ai quelque chose pour toi, j'ai une place pour toi, j'ai un plan pour toi. Je te veux, tu vas me rendre service. Je vais t'utiliser pour toucher certaines personnes, pour avoir un certain rôle dans l'Église. Parce que nous sommes tous membres d'un même corps et chaque membre a sa fonction. Il dit tout ça, je l'ai prévu, on va le développer plus tard, mais il dit j'ai un plan pour toi. Un plan spécifique pour toi. Regardons dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Bon, la phrase commence au verset 1, donc je vais lire là. Hein, donc on va lire les deux premiers versets. Donc 1 Pierre, chapitre 1, et versets 1 et 2, il dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et regardez, et qui sont élus ou choisis selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Il a dit, vous avez été Dieu dans sa préscience, vous a choisi, et dans son plan, c'était que vous arriviez à l'obéissance de Dieu. Alors qu'avant, je fais ce que j'ai envie, je fais à ma tête, je fais ce que... Et puis nous étions emportés par le monde et ce que le monde a comme passion. Il a dit, j'ai pu vous amener à ce moment où vous étiez prêts à faire, à obéir à Dieu. Il y a des gens qui nous regardent et disent, mais comment obéir à Dieu? Mais ça ne va pas, non? On est libre. Tu n'es pas aussi libre que tu crois. Parce que tu suis les autres comme un mouton. Il dit, je vous ai amené à l'obéissance et à participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Vous avez accepté d'être aspergé par le sang de Christ et recevoir le salut. C'était une expression de l'Ancien Testament, hein, quand il prenait le sang des animaux et il aspergeait le lieu très saint. C'était le sang couvrait le péché de l'année. Donc il a dit, vous avez participé à l'aspersion du sang. Vous avez obtenu le pardon de vos péchés. Et vous avez, maintenant vous pouvez entrer en communion avec Dieu. Il dit, vous savez, Dieu a un plan, il avait un plan spécifique, et il vous a amené jusqu'à où vous êtes. Il dit, oui c'est vrai, parce que normalement je ne serais pas là. Et je ne comprends pas pourquoi moi je suis là et les autres ne sont pas là. Et je ne suis pas meilleur que les autres. Et je pensais comme eux. J'étais dans le même état qu'eux. Pourquoi moi? Eh bien, Dieu vous a vu. Il vous a prévu. Et il a guidé. Et parce qu'il aime. il a un plan. Il y a aussi rapidement un plan général pour moi. Éphésiens chapitre 2 et verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Bien sûr, il vient de parler dans ce chapitre 2, il vient de nous dire ce que nous étions, et nous sommes, c'était vrai des Éphésiens, pourtant c'est une église pas mal, mais c'était vrai d'eux, comme c'est vrai de nous. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu. Et alors là, il nous introduit à cette pensée, il nous rappelle encore une fois, il dit, vous savez, Dieu vous a fait une grâce, parce que, en croyant, par la foi, vous avez obtenu le pardon des péchés. Ce n'est point par les œuvres. Oh, c'était pas les œuvres, hein, parce que, vous savez, les hommes, quand ils gagnent quelque chose par leurs œuvres, ça monte à la tête. Hein. Et il dit, afin que personne ne se glorifie. Les gens les plus religieux du monde, vous savez comment ils marchent. Les plus contents d'eux. Bon, il dit, oh, je suis humble. Mais regardez-moi quand même, hein. Remarquez combien je suis humble. Il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais alors, c'est le verset 10 qui nous intéresse ce matin. Parce qu'il dit, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Première chose, c'est lui qui œuvre, c'est lui qui agit. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il veut faire de nous? Il veut faire de nous, nous rendre capables de faire des bonnes œuvres. Dit, ah ouais, je croyais que les bonnes œuvres, c'était... Ah oui. Les bonnes œuvres n'apportent pas le salut, mais le résultat du salut, c'est les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne font pas le disciple. Mais c'est aux bonnes œuvres qu'on reconnaît le disciple. C'est Jean MacArthur qui dit « Les bonnes œuvres ne produisent pas le salut, mais le salut produit beaucoup de bonnes œuvres. » Et donc, normalement, il doit y avoir ce changement. Et c'est un changement, c'est des bonnes œuvres, mais d'une autre nature. Parce que, vous avez remarqué, là, il dit des œuvres, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est une question de, écoutez, essaye de trouver quelque chose de bien que tu pourrais faire. Eh bien, je vais jeter de la graine pour les oiseaux, je vais penser aux chats, je vais... Non, c'est pas toi qui décides, c'est les œuvres que lui a préparées. Si vous êtes, Paul a bien commencé quand il a dit, que veux-tu que je fasse? Une des bonnes œuvres, il en a fait jusque-là. Et ça l'a amené où? À devenir violent, méchant, persécuteur. Il dit, la volonté de Dieu, c'est que ses enfants soient zélés pour des bonnes œuvres, dit en Tite 2,14. Notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc c'est-à-dire, Jean 15, il dit, je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Et les sarments, ça sert à quoi? Ben, à pas faire des meubles. Hein. Les sarments, c'est à faire du fruit, produire du fruit, hein, pas autre chose. Et nous devons être hantés dans le cèpe, recevoir cette sève qui produit du fruit, et puis quand quelqu'un mange ce fruit... Qu'est-ce qu'il dit? Ah, ce sarment, il est pas mal. Non. Il dit, ce cep est un bon cep. La grappe de raisin porte honneur au cep, pas au sarment. Et c'est là quand ça se passe correctement. Quand je fais des bonnes œuvres et on me voit, c'était mal fait. Mais si je fais des bonnes œuvres et on voit Dieu, on dit ah, Dieu a fait un bon travail dans ce gars-là. Et alors là, ça c'est autre chose. Un jour, il y avait un grand orateur qui maîtrisait le verbe. On lui a demandé de réciter le psaume 23. Ah, il a pu dire le psaume 23, mais en articulant, avec toute l'expression, avec tout ça, on aurait pu presque... les gens, quand il a terminé, les gens applaudissent. Il avait tellement bien fait. Derrière lui se lève un vieux prédicateur, la voix cassée bah, avec toutes les prédications. Il se lève et il récite le psaume 23 et les gens ont des larmes aux yeux. Il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est quoi la différence? L'orateur a dit, moi je connais le psaume, mais lui il connaît le berger du psaume. Et c'est ça toute la différence. Beaucoup portent des Bibles. Beaucoup. Mais dis, est-ce que tu connais le berger, le Seigneur de la Bible? Pas seulement tu connais la Bible, mais est-ce que tu connais le Seigneur de la Bible? Est-ce que tu viens en communion avec lui? Et c'est lorsque nous pratiquons les œuvres de Dieu, donc avec lui, il les accomplit à travers de nous, eh bien, que nous le découvrons. C'est en faisant des choses avec quelqu'un qu'on le connaît. Hein, si on se connaît uniquement parce qu'on est assis dans les chaises pendant une heure ensemble, on ne peut pas dire qu'on se connaît. Moi, si, Zaya, oui, je sais Zaya. Mais Zaya, quoi? Zaya, elle est gentille, elle fait des sourires. Et elle prie un peu de temps en temps, mais voilà, Zaya. Non, est-ce que tu as travaillé avec elle? Est-ce que tu as vécu toute la semaine avec elle? Est-ce que vous faites des choses ensemble? Oh oui, on a fait des choses. Ah, alors la relation est tout autre. Hein, ma femme, on se connaît tellement bien qu'on peut même prévoir les bêtises et les bonnes choses. Parfois, même, j'ai rien dit encore et c'est ce que je pense. C'est dangereux pour moi. Mais, vous savez, mais c'est ça avec Dieu, c'est ça la relation qu'on veut. C'est où ben, je pense ses pensées derrière lui. Et là, c'est ce que Dieu a pour voir. Philippiens 1:6, il dit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » En fait, ce que je suis, c'est pour prendre une image, je suis une motte d'argile. Et alors, avant de démarrer, eh bien, je commence à la travailler, ajouter un peu d'eau, puis on travaille jusqu'à avoir la bonne consistance et plus malléable. Et après, on pose sur le tour. Et puis, après, il dit, qu'est-ce que tu voudrais devenir? Vous avez déjà vu un potier qui demande à l'argile, il dit, qu'est-ce que tu voudrais devenir? Non, c'est lui. Il dit, laisse-moi faire. Je vais faire. Parce que comme ça, tu n'es pas utile. On te pose quelque part, tu dessèches, puis tu deviens pierre, puis c'est tout. Mais laisse-moi agir dans ta vie. Et puis alors, le potier commence sur le tour et il commence à travailler. Et alors, il fait ce qu'il a, ce qu'il voit déjà dans sa tête, il le réalise. Et il donne une utilité à cette argile, qui tout à l'heure valait quelques euros le kilo, et tout d'un coup, ça a pris de la valeur. Et puis ça devient utile. Et puis ça rentre dans des maisons, et on le traite de certaines manières. Et on le traite gentiment. Ça devient tout autre chose. Il devient utile parce que maintenant, il a été formé pour accomplir certaines œuvres à laquelle pensait le potier. Verser de l'eau, venir une marmite, pot de fleurs. Il est en train de remplir les bonnes œuvres qui étaient prévues. Il dit, nous sommes sans nous, son ouvrage. C'est curieux, le mot grec, ouvrage, c'est le mot duquel nous tirons le mot poème. Voilà, hein, ça change tout là. Il dit, je vais faire de ta vie un poème. Oh, merci Seigneur, je ne demandais pas tant. Moi, juste une place au ciel, ça, c'est tout ce que je demandais. Il dit non, je vais faire de ta vie quelque chose que quand les gens le lisent, eh bien, ils ressentent quelque chose. Ils découvrent l'auteur du poème. Je mets en valeur. Il dit, voilà, notre Seigneur, il a un plan pour nous. Je termine avec ce passage dans 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, et au verset 2. Et je n'aurai pas à expliquer, parce que vous allez comprendre tout de suite ce que ça veut dire. 1 Jean, chapitre 3, verset 2, il dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Alléluia. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Regardez-moi, ce n'est pas fini. Je suis en chantier. Je vous regarde, vous êtes en chantier, si vous êtes dans le Seigneur. On est encore sur le tour, il est en train de former. Et les autres essaient de deviner ce qu'il va faire de moi. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il me transforme à son image. Déjà, nous portons l'image de Dieu, mais par la croix de Christ, il veut nous transformer à l'image de Christ. C'est-à-dire que, comme les gens de Jérusalem, en regardant et en écoutant les disciples, disent, mais vous avez fréquenté Jésus, n'est-ce pas? Ils ont pris connaissance qu'ils avaient été avec Jésus. Eh bien, le monde qui nous entoure doit aussi dire, mais ces idées-là, ça me fait penser à la Bible, ça me fait penser à Dieu. Tu sais, quand toi tu es là, c'est un peu plus facile de penser à Dieu. Ça m'encourage. Je suis un instrument utile et je suis en train d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour moi. Et les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement les prières, mais c'est aussi ce que je fais de mes mains, ce que je dis de ma bouche. Je ne vais pas développer ça maintenant, mais on reviendra là-dessus. Mais son but, il a un plan pour nous. Le plan de salut pour chacun d'entre nous, une fois que je suis sauvé, il a un plan spécifique pour moi, j'ai une place dans le corps de Christ et j'ai une fonction. Et il a un plan pour nous, c'est que nous soyons là pour le servir. Les bonnes œuvres, accomplir les bonnes œuvres. En fait, dans le grec, ça dit, c'est pas que nous les pratiquions, il a dit que nous marchions en elles. C'est ma vie, c'est ma marche. Ses bonnes œuvres, ses caractéristiques de mon existence nouvelle. Voilà, c'est le plan de Dieu pour nous. Oh, que le Seigneur nous aide. Prions. Père Céleste, encore une fois, merci pour ta parole. Nous qui ne sommes que un amas de terre et de minéraux et pas mal d'eau, eh bien, tu nous donnes de l'importance. Et toi, Dieu, tu te tournes vers nous et tu veux nous donner un rôle, une fonction et tu veux faire de nous quelque chose qui soit digne de continuer dans l'éternité. Père, tu nous étonnes toujours. Mais Père, nous avons confiance en toi. Je te prie pour ceux qui ne sont pas encore dans ce plan du salut, Seigneur, qu'ils puissent rentrer dedans, qu'ils puissent te recevoir. Bénéficier, être sous l'aspersion du sang de Christ. Et puis commencer à vivre ce plan que tu as préparé pour eux. Père, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont dehors. Mais pour l'instant, nous sommes là entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux. Et avec Saul, nous disons, Père, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il dit, fais et accomplis les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. Que nous puissions remplir ce rôle nouveau. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Je vous propose rapidement un cantique. Nous l'avons chanté tout à l'heure. C'est « Tel que je suis, je viens à toi ». C'est la meilleure prière qu'un être humain pourrait prier. 253. C'est pas celui-là, c'est, alors c'est 260. Bon, vous voyez que vous avez un rôle important dans l'Église. 258. Ce sera notre prière de conclusion, là. Tel que je suis sans rien. Versé pour moi et ta